Merci beaucoup Isabelle pour cette intervention. Je crois que nous avons bien perçu à quel point Augustin était soucieux d'invoquer ou de convoquer certains passages de Luc 24 dans des contextes spécifiques, contextes d'opposition manichéen, d'opposition aux donatistes. Et très intéressant aussi d'avoir perçu à la fin comment Augustin se trouve confronté à des questions qui demeurent aujourd'hui même dans la théologie, des questions très importantes sur la nature, sur le rapport entre le Christ ressuscité et le Christ pré-pascal, sur la nature, le statut du corps ressuscité. Merci beaucoup. Alors, Augustin est mort en 430, quelques mois avant le concile d'Éphèse, au cours duquel Cyril d'Alexandrie a joué un rôle très important. Donc, d'Augustin, nous rendons à nouveau en Orient, enfin l'Orient grec. Nous tournons vers Cyril d'Alexandrie et l'exposé qui va être proposé maintenant est dû à Marie-Odile Boulnois. Très heureux d'introduire cette intervention. Marie-Odile Boulnois est directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Elle travaille dans le cadre du laboratoire d'études sur le monothéisme. Elle enseigne dans le champ de la patristique grecque et des spécialistes en particulier de cet auteur très important, hein, de l'Orient grec, hein, Cyril d'Alexandrie. Et elle a beaucoup publié, publie beaucoup, notamment sur Cyril, pas seulement sur Cyril, mais notamment sur Cyril. En particulier, je voulais rappeler son grand livre sur le paradoxe trinitaire chez Cyril d'Alexandrie. Et plus récemment, ces toutes dernières années, elle a édité, introduit, annoté les livres 3 à 5 du Contre Julien de Cyril d'Alexandrie. Donc je laisse la parole sur le thème « Toucher les plaies du ressuscité, enjeux polémiques et préfiguration sacramentelle des apparitions du Christ au XI selon Cyril d'Alexandrie ». Merci beaucoup.
Merci Michel. Vous verrez que cette communication n'est pas sans lien avec celle d'Isabelle, en particulier sur tous les aspects polémiques de ces questions. Les apparitions du Christ ressuscité au XI dans les évangiles de Luc et de Jean présentent un paradoxe. Comment se fait-il que le corps ressuscité du Christ, s'il est bien devenu incorruptible, ait gardé les marques de la passion et prenne de la nourriture? Ceci n'est-il d'ailleurs pas contradictoire avec le fait qu'il soit entré alors que les portes étaient closes? Que ce soit dans ses homélies sur Luc, son commentaire sur Jean ou ses autres œuvres, Cyril s'intéresse plus qu'aucun de ses prédécesseurs à la question de la persistance de ces marques de la passion et met l'accent sur les erreurs théologiques contre lesquelles le toucher de ces plaies doit prémunir. Son exégèse a un caractère fortement polémique et nous essaierons d'en identifier les adversaires. De fait, pour Cyril, le Christ et les évangélistes ont le souci de réfuter par avance diverses hérésies. Par ailleurs, soucieux de prouver que les différents récits ne se contredisent pas, Cyril affronte la question de la compatibilité entre l'interdiction du Christ à Marie-Madeleine « ne me touche pas » et l'invitation aux apôtres à le palper et à mettre la main dans ses plaies. Pour résoudre cette tension, Cyril propose de voir dans ses apparitions une figure de la pratique liturgique, une interprétation dont je n'ai trouvé aucun autre exemple chez les auteurs chrétiens des 5 premiers siècles. J'analyserai donc d'abord la fonction pédagogique des apparitions du Christ, puis différentes erreurs origénistes, dualistes, synousiastes que le toucher du ressuscité permet de réfuter, avant de voir comment ces épisodes sont lus par Cyril comme une préfiguration de la présence sacramentelle du Christ dans l'Eucharistie. D'abord la fonction pédagogique. Les deux épisodes de Luc 24, 39-43 et Jean 20, 19-29 sont mis en relation par Cyril qui en établit la chronologie relative et la concordance. Le récit de Luc 24 correspond à la première apparition du Christ aux 10 apôtres racontée par l'évangile de Jean, c'est-à-dire en l'absence de Thomas. Ainsi, lorsqu'ils disent à Thomas « Nous avons vu le Seigneur » en Jean 20, 25, ils se réfèrent à l'apparition racontée à la fois par Jean et par Luc. Cette relecture de Jean à la lumière de Luc permet à Cyril de prouver que Thomas n'est pas le seul apôtre à douter, puisqu'en Luc 24, le Christ dit aux apôtres « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des doutes montent-ils en vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi, et voyez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous constatez que j'en ai. » Bien plus, Cyril minimise ce doute en y voyant le contre-coup d'un excès de joie, ce qu'il confirme là encore en recourant au texte de Luc, ils doutaient et dans leur joie, ils étaient saisis d'étonnement. Le mode des apparitions du Christ a donc avant tout une fonction pédagogique, économique, selon l'expression répétée par Cyril. En effet, contrairement à ce que ces apparitions pourraient laisser croire, le corps ressuscité ne gardera pas ses marques de corruption. Le boiteux ne ressuscitera pas boiteux, ni l'aveugle privé de vue, et il n'aura pas non plus besoin de se nourrir. On ne doit pas supposer que le Christ n'aurait pas eu le pouvoir de se débarrasser de ses marques. Mais le Christ consent à différer le moment de son retour à l'incorruptibilité pour convaincre ses disciples de la résurrection de sa propre chair. Cyril en donne deux raisons a fortiori qui prennent appui sur deux autres épisodes de la vie du Christ. D'une part, le Christ retarde le moment où il retrouvera sa gloire, car ses disciples ne sont pas encore prêts à le voir ainsi, comme le prouve le fait qu'ils n'ont déjà pas pu supporter sa vision lors de la transfiguration. D'autre part, puisque quand il est monté au ciel, il a gardé ses marques pour enseigner aux anges le dessein divin de l'incarnation et de la passion du Verbe, à plus forte raison, les hommes ont besoin de voir et de toucher les plaies pour être persuadés que c'est le Christ mort qui est ressuscité et que le Christ ressuscité a gardé une réalité corporelle. Cette comparaison entre l'ascension et les apparitions aux onze est à ma connaissance propre à Cyril et se rencontre dans plusieurs de ses œuvres. Dans son commentaire sur Jean, la manifestation aux anges est clairement utilisée comme argument a fortiori pour minimiser le doute de Thomas et justifier que le Christ ait gardé ses plaies lors de ses apparitions aux apôtres. Je cite la fin de son argumentation, texte 1. Donc le Christ, qui voulait assurer les saints anges eux-mêmes qu'il est vraiment homme et qu'il a subi la croix pour nous quand il est ressuscité et est revenu à la vie d'entre les morts, ne s'est pas contenté de paroles, mais a montré les signes de la passion. Qu'y a-t-il donc d'étonnant ou d'étrange si, voulant débarrasser le bienheureux Thomas de son incrédulité, il lui a montré les marques des clous, se faisant même voir, contre toute vraisemblance, pour l'utilité de tous, afin que nous croyions sans aucun doute que le mystère de la résurrection a été réalisé, non pas qu'un autre corps soit ressuscité, mais celui-là même qui a souffert la mort. Dans son commentaire sur Isaïe, son commentaire sur l'Épître aux Hébreux, sa lettre 41 à Acas de Citopélis, l'ordre est inverse. C'est à l'occasion d'un développement sur l'ascension qu'est évoquée la comparaison avec l'incrédulité de Thomas. Dans chacun de ces textes, Cyril prend appui sur Isaïe 63:1. Quel est celui qui se présente venant d'Édom, rougeoiement de manteau, venant de Bozor? Il y voit une question des anges, frappé d'étonnement à la vue de ce spectacle étrange du Christ remontant au ciel avec sa chair blessée. Le recours à Isaïe 63:1-2, en ce sens, remonte au moins à Origène, dans sa deuxième homélie sur le psaume 15, récemment découverte dans le Monachensis Graecus 314, où il interprète ces versets d'Isaïe comme un dialogue entre les puissances célestes et le Christ. Il les associe également au dialogue du psaume 23, 7-8, « Levez vos portes, princes, et levez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entre rois. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. » Déjà chez Justin et Irénée, ces versets psalmiques étaient compris comme un dialogue entre les anges accompagnant le Christ dans sa remontée et les puissances célestes qui leur demandent quel est ce roi de gloire. Origène semble cependant le premier à porter attention aux marques de la passion que le Christ conserve lors de son ascension. Cyril innove en complétant le dossier scripturaire par la citation de Zacharie 13:6, qu'il interprète également comme une question des anges au Christ. « Quelles sont ces plaies au milieu de tes mains ?» En répondant « J'en ai été blessé dans la maison de mon bien-aimé », le Christ accuse ainsi Israël, son bien-aimé, de l'avoir conduit à sa passion. À ma connaissance, Cyril est le seul auteur grec des cinq premiers siècles à proposer une telle exégèse de ce verset de Zacharie, et là encore, dans trois de ses œuvres, en lien avec Jean 20 et Isaïe 63. L'incrédulité de Thomas s'en trouve minimisée, et le caractère pédagogique des apparitions en est renforcé. De fait, plusieurs enseignements en découlent qui sont autant de réponses aux opinions erronées que certains ont pu élaborer sur la résurrection du Christ à la suite de ce que les apôtres avaient eux-mêmes pu croire. J'en viens aux enjeux polémiques des apparitions. Dans le commentaire sur Jean, Cyrille semble distinguer deux catégories, c'est le texte 2. Certains pensent qu'il est un fantôme ou une ombre, simulant la forme humaine et contrefaisant mensongèrement les caractéristiques de notre silhouette. D'autres, sans intelligence, le croient un corps spirituel. Nous retrouvons la question que posait Isabelle. Un corps spirituel, c'est-à-dire subtil et aérien, et autre que la chair. Car c'est ainsi que certains jugent bon de comprendre et de recevoir le terme spirituel, et c'est une allusion à 1 Corinthiens 15:44. Cyrille ne précise pas l'identité de ces certains. Au départ, ce type de croyance remonte aux apôtres eux-mêmes, et c'est pour les réfuter que le Christ déclare, je cite, « un esprit n'a ni chair ni os », et qu'il ne se contente pas de montrer ses plaies, mais va jusqu'à manger devant eux. Cyrille précise cependant qu'ils avaient une excuse, puisque le Christ était entré alors que les portes étaient closes, ce qui est impossible à un corps doté d'épaisseur. Texte 3. Ils croyaient qu'il n'était pas en vérité celui qui avait naguère été en leur compagnie et avait vécu avec eux, et qui avait été suspendu au bois, mais qu'il était plutôt un esprit façonné habilement à l'image du Sauveur, et qui contrefaisait mensongèrement les traces de la forme qu'ils avaient connue. Néanmoins, s'ils étaient tombés dans une telle croyance, ce n'était pas sans une raison valable qu'il les y avait appelés. Comme il était entré miraculeusement, les portes étant closes, alors qu'un corps terrestre et doté d'épaisseur recherche une entrée adaptée et nécessite une ouverture de la porte suffisamment large à proportion de la taille de chacun, c'est tout à fait utilement que notre Seigneur Jésus-Christ a dénudé son côté devant Thomas et fait voir les blessures de la chair, donnant à tous à travers lui une preuve certaine. Mais par-delà, les apôtres sont visés deux hérésies, le docétisme et une représentation purement spirituelle du corps ressuscité. Cyrille ne dit pas grand-chose du premier cas, celui de la simulation mensongère, que le recours à la nourriture doit permettre de combattre. La deuxième erreur est en revanche plus explicite. Il s'agit de croire que le corps ressuscité n'est plus de la chair, mais un esprit subtil, sur la base d'une interprétation erronée de 1 Corinthiens 15:44, un corps psychique est semé, un corps spirituel ressuscite. Cette précision se lie au moins à deux reprises dans son commentaire sur Jean, qui attribue cette thèse à certains. Texte 4. Donc, pour éviter que certains ne croient que le Seigneur est ressuscité comme un esprit subtil, lepton, ou comme un corps que l'on ne peut toucher, semblable à une ombre et aérien, ce que Aïdès et Aérion, ce que certains ont l'habitude d'appeler spirituel, mais afin que l'on croie que c'est cela même qui a été semé dans la corruption selon les mots de Paul qui se relève, le Christ a accompli et montré ce qui revient à un corps épais. On retrouve la même mise en garde dans la dernière de ses homélies sur Luc. Ces 156 homélies ne sont transmises en grec qu'à travers des chaînes, mais ont été conservées de manière plus complète dans une traduction syriaque qui permet d'authentifier par comparaison les extraits grecs. Malheureusement, la dernière homélie qui nous intéresse n'est pas encore éditée. Je vois au fond de la salle quelqu'un qui le fera peut-être. Cependant, un article de Joseph-Marie Sauget décrit un manuscrit encore inédit, le Codex de Damas 12-20, qui contient une traduction syriaque de cette homélie sur la résurrection. La liste qu'il donne des correspondances entre le syriaque et certains fragments grecs transmis par les chaînes permet d'en confirmer l'authenticité ainsi que l'incipit et le désinit. Dans ces passages ainsi authentifiés, Cyrille souligne à deux reprises que c'est bien un corps humain qui est ressuscité et non un esprit. Et il s'appuie sur deux éléments, la nourriture et le toucher. Si le Christ mange devant les apôtres, c'est afin qu'ils sachent que c'est un corps humain et non un esprit qui est devant eux. D'autre part, texte 5, ce qui est simplement une ombre, un esprit, une apparence, ne pourrait supporter le toucher d'une main. Or, juste avant, il a précisément mis en garde contre ceux qui tireraient prétexte de 1 Corinthiens 15:44 pour en conclure que ce ne sont pas des corps humains qui reçoivent l'incorruptibilité. C'est le texte 6. Donc, que personne ne chicane à propos de la résurrection elle-même, même si tu entends l'Écriture sacrée dire à propos du corps de l'homme « un corps psychique est semé, un corps spirituel ressuscite », ne supprime pas le retour vers l'incorruptibilité des corps humains. Car de même qu'est psychique, ce qui suit les désirs psychiques, c'est-à-dire charnel, et ce qui est assujetti, de même aussi est spirituel, ce qui est soumis aux volontés de l'Esprit-Saint. La description de cette erreur est donc très similaire à celle que l'on lit dans le commentaire sur Jean. Pour Cyrille, lorsque Paul parle de corps psychique et de corps spirituel, il ne faut pas comprendre ces adjectifs comme désignant un état physique, mais au sens moral. Le corps psychique est lié au désir charnel, le corps spirituel en est débarrassé et obéit aux volontés de l'Esprit-Saint. On rencontre la même exégèse dans son commentaire sur la première épître aux Corinthiens, lui aussi transmis de manière indirecte. Cyrille y polémique également contre une interprétation du terme « spirituel » qui y verrait ce qui n'est plus chair, ce qui est subtil, aérien et qui le cède de peu aux ombres. Là encore, il évoque le fait que certains croient qu'il en est ainsi, alors que lui-même en propose une toute autre lecture, c'est le texte 7. « Je dirais qu'est spirituel, non pas ce qui est sous la forme d'une ombre ou d'un esprit incorporel, mais plutôt ce qui s'éloigne et se trouve totalement débarrassé du mode de pensée charnel et terrestre. » Plusieurs éléments reviennent dans la description de cette erreur. L'idée que ce corps n'est plus de la chair, son caractère subtil et aérien, le fait qu'on ne peut le toucher et la confirmation scripturaire de son caractère spirituel au moyen de 1 Corinthiens 15:44. Quels sont les adversaires ainsi visés? Sur la base de ces éléments, on peut sans conteste identifier cette erreur à celle que Méthode d'Olympe reproche explicitement à Origène dans un passage consacré à l'explication justement de 1 Corinthiens 15, c'est le texte 8. Et dit corps spirituel, non pas le corps subtil et aérien, selon l'avis de certains dont fait partie Origène, qui disent que les âmes prendront un tel corps à la résurrection. Mais est dit spirituel, celui qui contient toute l'énergie et la participation de l'Esprit-Saint, de même qu'on appelle récipient à vin et à huile ce qui les contient. Il est notable que Cyrille décrit cette doctrine en utilisant les deux mêmes adjectifs que méthode, subtil et aérien. Je n'entrerai pas ici dans la discussion de savoir si une telle description correspond effectivement à la doctrine d'Origène, ce qui mériterait une étude approfondie. Je me contenterai de mentionner le fait que le traité des principes emploie bien l'adjectif subtil pour expliciter l'expression corps spirituel et que dans ses stromates conservés par Jérôme, Cyrille déclare, texte 9, « Un autre corps nous est promis, spirituel et éthéré, qui ne tombe pas sous le toucher. » Il est certes question ici de corps éthéré et non aérien, néanmoins, il déclare explicitement dans la suite « Il ne masque pas pour autant la nature aérienne et spirituelle de son corps, car il entre porte close, et lors de la fraction du pain, il disparaît au regard. » La plus grande prudence est requise pour déterminer la terminologie employée par Origène, dans la mesure où ces textes ne nous sont connus qu'en traduction, et dans le cas de Jérôme, sous la plume d'un opposant. Mais on voit clairement que les critiques cyrilliennes rejoignent ce que Méthode ou Jérôme reprochent au moins à Origène. Une deuxième hérésie est rapidement réfutée dans le commentaire sur Jean et plus longuement dans les écrits antinestoriens qui distinguent d'un côté celui qui est mort et ressuscité et que touche Thomas, de l'autre la divinité que Thomas professe en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Avant même la controverse nestorienne, Cyrille polémique contre ce dualisme en professant l'unité du Christ qui est réellement Seigneur et Dieu par nature, même quand il est devenu homme. Dans son commentaire sur Jean, il s'appuie ainsi sur l'apparition à Thomas pour professer l'unicité du Fils, texte 10. Observe en effet que c'est après avoir palpé les mains, les pieds et le côté que le disciple lui a offert sa confession de foi, ne coupant pas l'Emmanuel en une dyade de fils, mais reconnaissant l'unique et le même avec la chair, car il y a un unique Seigneur Jésus-Christ selon les Écritures. Or, c'est précisément une telle séparation que pratique Nestorius, comme en témoigne un de ses sermons dans lequel il s'adresse de manière polémique à Apollinaire et à Arius, c'est le texte 11. Écoute les paroles de Pierre, Apollinaire. Écoute-les aussi, Arius, avec Apollinaire. Ce Jésus, dit-il, Dieu l'a ressuscité. Ce Jésus qui se manifeste, qui est vu avec les yeux, qui a été suspendu au bois, qui a été touché par les mains de Thomas, qui lui a crié « Palpe, car un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que moi j'en ai », et le disciple, persuadé de la résurrection par ses paroles et le toucher du corps crucifié, glorifiait Dieu qui a accompli ce miracle, mon Seigneur et mon Dieu, en nommant Dieu, non pas ce qui était palpé, en effet, ce n'est pas par une palpation que l'on trouve la divinité. On voit ici que Nestorius réalise une conflation entre les récits de Luc 24 et de Jean, utilisant une phrase de Jésus aux apôtres rapportée par Luc pour l'appliquer à la rencontre spécifique avec Thomas racontée par Jean. Or, exactement à l'inverse de ce que nous avons vu dans le commentaire sur Jean de Cyril, Nestorius refuse que la profession de foi de Thomas s'adresse précisément à la chair qu'il vient de palper. Thomas invoque Dieu, mais Dieu n'est pas ce corps qu'il palpe. Dans la réfutation de ce sermon, Cyril répond que même si Pierre déclare que Dieu, sous-entendu le Père, a ressuscité Jésus, le Fils agit tout autant avec lui, en vertu de l'unité d'opération trinitaire. Celui qui a été vu et palpé par les mains de Thomas est bien le Verbe incarné, qui s'est approprié son propre corps, de sorte qu'on ne doit confesser qu'un unique Fils. Texte 12. Celui qui est invisible par nature est devenu visible parce que son corps visible lui était propre. Donc je saute un certain nombre de citations à chaque fois. Celui qui était impalpable, on dit qu'il s'est rendu palpable à cause du corps qui lui est uni. Mais s'il n'est pas devenu palpable et visible en tant qu'il possède en propre un corps qui tombe sous le toucher et la vision, comment les très sages disciples peuvent-ils avoir été les témoins oculaires du Verbe? Comment peuvent-ils dire qu'ils ont contemplé et palpé le Verbe de vie qui était auprès du Père et qui s'est manifesté à nous? Ça appuie sur la première lettre de Jean 1:1. Thomas a donc reconnu que celui-ci était bien celui qui était palpable et visible, lui qui avait été suspendu au bois, et il a confessé à très juste titre qu'il est Dieu et Seigneur. L'allusion à la première épître de Jean vient confirmer l'interprétation de l'apparition à Thomas. La concomitance du toucher et de la profession de foi de Thomas est donc pour Cyril une preuve par excellence de l'unité christologique. Cette réfutation du dualisme se lisait déjà de manière très semblable dans son traité sur l'incarnation, probablement antérieur à la controverse nestorienne, et repris en grande partie dans son traité sur la vraie foi adressé à l'empereur Théodose en 430. En s'appuyant sur les mêmes citations, il conclut, texte 13, « L'incorporel devint visible et palpable l'intangible. Sa chair de provenance terrestre ne lui était plus un vêtement étranger, mais il en avait fait son temple propre et avec elle, il se révélait comme Dieu et Seigneur. » Cette apparition aux apôtres doit encore prévenir une troisième erreur, la position inverse, à savoir une version extrême de l'apollinarisme que Cyril dénomme synousiasme et qui considère la chair comme consubstantielle à la divinité. Dans son traité contre les synousiastes, rédigé vers la fin de sa vie, il prend appui sur le fait que le Christ ressuscité a encore une chair, des pieds et des mains, et qu'il a clairement déclaré qu'il n'était pas un esprit, pour affirmer, texte 14, « Comment peut-on douter que la chair ne s'est pas transformée en nature de la divinité, ni avant la croix vénérable, car il a volontairement souffert charnellement, ni quand il a foulé la mort aux pieds en ressuscitant le troisième jour, et s'est ainsi fait voir à ses disciples ?» La persistance de l'état corporel du Christ après la résurrection prouve qu'il n'y a eu aucune transformation de la chair en nature divine après la résurrection, pas plus qu'avant la mort. Dans ses réponses au diacre Tibérius, Cyril s'appuie également sur le caractère palpable du corps ressuscité pour réfuter à la fois ceux qui pensent qu'il n'est pas monté avec sa chair et ceux qui disent que le corps assumé s'est mélangé à la divinité, je cite, en vertu d'un mélange et d'une fusion substantielle avec la Sainte Trinité. J'en viens à mon troisième point, une lecture sacramentelle des récits d'apparition. Outre ces divers enjeux polémiques, dans son commentaire suivi de l'Évangile de Jean, Cyril doit également affronter un problème spécifique, celui de la contradiction entre l'interdiction de le toucher adressée à Marie-Madeleine et l'invitation à mettre sa main dans les plaies que reçoit Thomas. Pour résoudre ce problème, Cyril propose une interprétation qui lui est propre. La solution qu'il donne fait partie d'une lecture plus globale qui interprète chacun des détails de ces épisodes comme des préfigurations de la pratique liturgique dominicale. Cyril débute son exégèse de l'apparition à Thomas en soulignant le soin méticuleux avec lequel l'évangéliste rapporte l'événement, une précision qui ne peut évidemment pas être dépourvue de sens et sur laquelle il va bâtir sa lecture typologique. Ainsi en est-il de la précision selon laquelle le Christ s'est manifesté à Thomas 8 jours après la première apparition qui eut elle-même lieu le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Texte 15. À cause de cette observation minutieuse et admirable, nous disons que le Christ nous rendait ainsi clair le moment de nos assemblées ou synaxes réunies en son honneur. En effet, il se rend présent et, en quelque manière, habite avec ceux qui se sont réunis à cause de lui, spécialement le huitième jour, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Il est donc tout à fait fondé que nous ayons nos saintes assemblées dans les églises le huitième jour. Outre le huitième jour, la manière dont le Christ salue les apôtres en leur disant « paix à vous » préfigure la pratique liturgique du baiser de paix. C'est le texte 16. Un troisième détail est remarquable et, selon Cyril, contient même une signification plus mystique encore, le fait que les portes soient closes, texte 17. Et s'il faut dire encore quelque chose de plus mystique, parce que le sens du passage le rend inévitablement nécessaire, nous fermons les portes et le Christ se rend présent et nous apparaît à tous, à la fois invisiblement et visiblement. Invisiblement en tant que Dieu et visiblement dans un corps. Il donne aussi sa sainte chair et nous invite à la toucher. En effet, avec la grâce de Dieu, nous nous approchons pour participer à le logis mystique en recevant le Christ dans nos mains, afin que nous aussi nous croyions fermement qu'il a vraiment ressuscité son propre temple. Bien loin du problème trivial de savoir comment un corps épais peut entrer quand les portes sont fermées, Cyril en donne ici un sens typologique en lien avec la présence du Christ dans l'Eucharistie. Cette explication est riche. Elle donne quelques précisions sur deux réalia, la fermeture des portes de l'Église en lien avec la discipline de l'arcane et la réception de l'ologie mystique, l'Eucharistie, dans les mains avec une insistance sur le toucher. De manière générale, la continuité entre l'action du Christ, du corps du Christ, l'action du corps du Christ durant sa vie mortelle et celle de son corps eucharistique apparaît comme un leitmotiv de la théologie cyrilienne. Cette exégèse suppose aussi un fondement christologique, s'appuyant sur les deux natures du Christ, divine et humaine, invisible et visible. Enfin, elle présente l'Eucharistie comme une confirmation de la résurrection du corps du Christ. Or, c'est précisément cette lecture typologique des récits d'apparition qui permet d'expliquer la contradiction apparente entre le ne me touche pas adressé à Marie-Madeleine et l'invitation faite à Thomas. C'est le texte 18. En réalité, comme Cyril le souligne, le sens de cette parole n'est pas facile à comprendre pour la plupart, car il y est caché un mystère, il faut donc l'examiner parce que c'est utile. Si Marie-Madeleine ne peut le toucher, ce n'est pas parce qu'elle risquerait de le souiller, explication absurde que rejette Cyril en soulignant que la nature divine n'est pas susceptible d'être souillée, de même que les rayons du soleil restent intacts, y compris lorsqu'ils se posent sur des objets nauséabonds. D'ailleurs, durant sa vie, le Christ s'est laissé toucher par des femmes impures, la pécheresse et les Moroïses. Mais cette interdiction s'explique par le fait qu'elle préfigure l'impossibilité pour les catéchumènes de participer à l'Eucharistie. Pour pouvoir toucher au corps du Christ, il faut avoir reçu l'Esprit-Saint dans le baptême. L'union spirituelle réalisée par son action est prérequise pour permettre une union plus étroite encore, celle qui mêle le corps du Christ au corps du croyant. Dans la pratique liturgique, cette condition se manifeste lorsque, juste avant que le croyant s'avance pour communier, le prêtre déclare « au saint les choses saintes ». Le contact avec des choses saintes présuppose la sanctification préalable du croyant qui va le recevoir, selon le principe que seul le semblable peut recevoir le semblable. Texte 19. De fait, nous aussi, nous écartons de la table sacrée même ceux qui ont reconnu la divinité du Christ et qui ont déjà confessé la foi, c'est-à-dire ceux qui sont encore catéchumènes et qui n'ont pas été enrichis de l'Esprit-Saint. En effet, ils ne résident pas en ceux qui n'ont pas encore été baptisés. Mais lorsque ces derniers sont rendus participants de l'Esprit-Saint, alors rien ne les empêche plus de toucher eux aussi à notre Sauveur le Christ. C'est pourquoi, à ceux qui veulent participer à le logis mystique, les ministres des mystères divins déclarent aux saints les choses saintes, enseignant ainsi que la participation aux choses saintes ne convient qu'à ceux qui ont été sanctifiés dans l'Esprit. Pour Cyrille, c'est donc cette pratique liturgique, en vertu de laquelle la communion est réservée aux baptisés, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint, qui est préfigurée par l'interdiction adressée par Jésus à Marie-Madeleine. Texte 20. Dans ces conditions, comment n'était-il pas inévitable que Marie ait été écartée pour un temps du contact avec le Saint-Corps, puisqu'elle n'avait pas encore reçu l'Esprit? Inversement, Thomas, lui, a reçu l'Esprit-Saint et peut donc toucher le corps du Christ. Pour le prouver, Cyrille doit néanmoins répondre à une objection possible. Comment Thomas peut-il avoir reçu l'Esprit-Saint alors qu'il était précisément absent le jour où le Christ a soufflé sur ses apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit-Saint » en Jean 20, 22. La solution réside dans un parallèle vétérotestamentaire. Le livre des Nombres rapporte qu'Eldad et Modad, qui n'étaient pas avec les 70 anciens dans le campement, ont pourtant reçu eux aussi l'Esprit-Saint et se sont mis à prophétiser. De la même manière, Thomas, bien que physiquement absent le jour de l'insufflation, en a reçu la grâce dans la mesure où il fait partie du cœur des apôtres. C'est donc la pratique liturgique, selon laquelle la participation à l'Eucharistie est réservée aux baptisés, qui permet de comprendre les difficultés posées par la question du toucher dans les apparitions du Christ à Marie-Madeleine et à Thomas. Mais inversement, cette pratique liturgique reçoit ainsi un fondement exégétique et théologique. On a là un exemple particulièrement révélateur de la méthode herméneutique de Cyrille et de la fécondité de l'interaction entre exégèse et théologie. Il n'est pas non plus sans intérêt de constater que l'exégèse cyrillienne anticipe l'interprétation de certains exégètes modernes qui soulignent la perspective eucharistique de ces récits d'apparition. Pour terminer, mentionnons que l'exégèse de l'apparition du Christ au bord du lac en Jean 21 recourt elle aussi largement à l'interprétation typologique que Cyrille justifie en déclarant qu'il ne fait rien d'autre qu'expliquer un plan du Sauveur qui est lui-même typologique. Ainsi, et je retrouve ce que disait Martine à propos d'Ambroise, la triple question de Jésus à Pierre « M'aimes-tu ?» non seulement compense le triple reniement, mais annonce la triple interrogation du baptisé. C'est le texte 21. À nouveau, on peut tirer de là une figure pour les Églises dans le fait que l'on doit interroger trois fois sur la confession au Christ ceux qui ont choisi de l'aimer en venant au Saint-Baptême. Je conclue. Pour Cyrille, si le Christ a fait toucher à ses apôtres les plaies de sa passion une fois ressuscité, c'est dans une visée pédagogique pour leur prouver qu'il est ressuscité avec le même corps, tout comme dans sa remontée au ciel, il a montré aux anges les mêmes plaies pour qu'ils aient eux aussi connaissance des modalités du salut. En rapportant ces épisodes, Luc et Jean avaient le souci de réfuter par avance diverses hérésies sur la résurrection. Le corps du Christ n'est devenu ni une apparence, ni subtil et aérien. C'est bien celui qui est palpable que Thomas confesse comme Dieu, de sorte qu'on ne peut couper l'unique en deux fils. Enfin, la chair n'a pas fusionné avec la Trinité. L'exégèse cyrillienne fait également droit à la minutie des détails du texte pour lire dans ses récits des préfigurations des synaxes eucharistiques. Le Christ se rend présent le huitième jour alors que les portes sont closes, et seuls ceux qui, comme Thomas, ont reçu l'Esprit-Saint, c'est-à-dire sont baptisés, sont admis à toucher la Sainte Chair. Cette exégèse est originale par rapport aux autres pères, qu'il s'agisse du rapprochement entre l'apparition à Thomas et la remontée du Christ au ciel devant les anges, ou de l'interprétation sacramentelle de l'apparition aux onze. Mais elle est aussi très caractéristique de sa théologie, avec une prise de distance vis-à-vis de l'origénisme, une ferme condamnation du dualisme christologique et d'une forme extrême d'apollinarisme, enfin, une place majeure accordée au corps du Christ dans la sotériologie plus particulièrement à travers l'Eucharistie. Je vous remercie.